On a coutume de dire « les paroles passent, mais les écrits restent ». C'est vrai que la plupart des gens oublient ce que vous avez pu dire, et heureusement qu'il en est ainsi. Mais ce qui est couché sur le papier est toujours là pour raviver un souvenir, qu'il soit bon ou pas. Le prophète Jérémie parle et parle, mais peu l'écoute. Finalement, c'est Nabuchodonosor qui élève le ton en attaquant Jérusalem et en déportant l'élite de la nation. Nous sommes au début du règne de Sédécias qui a remplacé son frère Jéhoiakim exilé à Babylone. Le chapitre 29 décrit la situation nouvelle où se trouve le peuple d'Israël à la suite de cette tragédie. Ceux qui étaient restés au pays se croyaient supérieurs aux exilés, mais se berçaient de douces illusions en pensant que l'orage était passé. Quant aux déportés, ils s'attendaient à retourner rapidement au pays suite à la chute prochaine de Babylone. Mais ils faisaient tous grandement erreur, encouragés dans leur présomption par les nombreux faux prophètes qui vivaient parmi eux. N'ayant pas été entendu, Jérémie se sentit obligé d'écrire la révélation de Dieu noir sur blanc à ses compatriotes exilés comme à ceux qui se trouvaient encore sur le sol de la patrie. Je commence à lire le chapitre 29. Voici le contenu de la lettre envoyée de Jérusalem par le prophète Jérémie à ceux des responsables du peuple qui subsistaient en exil, ainsi qu'aux prêtres, aux prophètes et à tout le peuple que Nabuchodonosor avait déporté de Jérusalem à Babylone. La lettre fut envoyée après le départ du roi Yéconia, de la reine mère, des fonctionnaires du palais royal, des ministres de Juda et de Jérusalem, des artisans et des forgerons, par l'intermédiaire d'Eléassa, fils de Shaphan, et de Gemaria, fils de Hilkia, que Sédécias, roi de Juda, avait envoyé à Babylone, à Nabuchodonosor, roi de Babylone. Versets 1 à 3. Tous ces noms rébarbatifs sont importants dans le livre de Jérémie. Le roi Jéhoiakim, aussi appelé Yéconia, est en exil. L'un des porteurs de la lettre, Eléassa, est le frère d'Ahikam qui, dans l'histoire précédente, était intervenu en faveur de Jérémie lorsque le peuple voulait le lyncher. Grâce à lui, les magistrats avertis du tumulte eurent le temps de se rendre sur place afin de rendre une justice équitable. Le prophète entretenait des relations proches avec la famille haut placée de ce Ahikam. Le second porteur de la lettre, Gemaria, est un autre défenseur de Jérémie et peut-être même son frère. Ces deux hommes occupaient des postes importants dans l'administration du roi Sédécias et sont envoyés à Babylone pour une mission diplomatique. Jérémie profite de cette aubaine et de leur amitié pour faire parvenir son message aux déportés. Je continue. La lettre disait: « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai fait déporter de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et installez-vous-y, plantez des jardins et mangez-en les fruits, mariez-vous et ayez des enfants, mariez vos fils et donnez vos filles en mariage, et qu'elles aient des enfants, multipliez-vous là-bas et ne laissez pas diminuer votre nombre. » Versets 3 à 6. Comme les faux prophètes entretenaient les illusions des exilés en leur garantissant un prochain retour au pays, ces derniers refusaient de s'établir définitivement en terre étrangère. Jérémie les rappelle à l'ordre fermement de la part de l'Éternel car ils vont rester à Babylone 70 ans, ce qui veut dire qu'aucun de ces déportés ne reviendra en Israël. Au terme de l'exil, il faudra au contraire arracher leurs descendants de leur nouvelle patrie, tellement ils étaient devenus prospères, afin de les ramener en Israël où doivent s'accomplir leur véritable destinée de peuple de Dieu. Je continue le texte. « Recherchez la prospérité de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur, car de sa prospérité dépend la vôtre. » Verset 7. Les exilés doivent non seulement s'implanter à Babylone, mais aussi devenir des citoyens modèles. Les habitants d'un même sol sont trop solidaires entre eux pour que le malheur de l'un puisse faire le bonheur des autres. De plus, le croyant doit appeler la bénédiction divine sur la société dans laquelle il vit. L'apôtre Paul dit à peu près la même chose à son disciple Timothée quand il lui écrit « Je recommande que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve. Fin de citation. Je continue le texte plus loin. « Car moi, dit l'Éternel, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Verset 11. L'Éternel a des projets de paix pour son peuple et lui prépare un bel avenir, mais ses voies sont différentes de celles imaginées par les faux prophètes. Il faudra d'abord une transformation intérieure des Israélites et attendre la fin des 70 années d'exil. Vouloir anticiper impatiemment les temps et les moments que Dieu a choisis, c'est s'exposer à bien des difficultés. Je continue. « Alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. » Versets 12 et 13. Il est étonnant que le premier privilège du peuple sera le droit de prier l'Éternel. La prière, qui est le moyen d'obtenir les grâces divines, est elle-même une grâce. On constate ici que ce que Dieu a planifié, il propose à son peuple d'y prendre une part active par l'entremise de la prière. Une leçon à méditer. Je continue. « Je me laisserai trouver par vous, l'Éternel le déclare. Je ferai revenir les exilés de votre peuple et je vous rassemblerai du milieu de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai dispersés. L'Éternel le déclare. » pour vous ramener dans le pays d'où je vous ai déporté. » Verset 14. L'accomplissement de cette prophétie est survenu à l'époque d'Esdras et de Néhémie et le sera dans une plus grande mesure encore après la seconde venue du Messie. Je continue plus loin. « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, au sujet d'Akab, fils de Kolaya, et de Sédécias, fils de Maaseia, qui vous prophétise des mensonges en mon nom. Je vais les livrer à Nabucodonosor, roi de Babylone, qui les fera périr sous vos yeux. » Verset 21. Ces deux hommes comptaient parmi les faux prophètes qui trompaient les exilés. Ils étaient coupables de mentir au nom de l'Éternel et d'adultère à répétition, un vice classique chez les faux prophètes. Ils suscitèrent aussi la colère de Nabucodonosor qui les fit brûler vifs dans une fournaise ardente. Je continue plus loin et finis le chapitre 29. L'Éternel adressa la parole à Jérémie. « Envoie ce message à tous les exilés. Voici ce que déclare l'Éternel au sujet de Shemaïa de Néhélam. Shemaïa vous a prophétisé sans que je l'aie mandaté et il vous a fait croire des mensonges. » Eh bien, voici ce que déclare l'Éternel. « Je vais sévir contre Shemaïa de Néhélam et ses descendants. Aucun des siens ne subsistera au milieu de ce peuple et il ne jouira pas du bonheur que je vais accorder à mon peuple. » L'Éternel le déclare, car il a prêché la rébellion contre l'Éternel. Versets 30 à 32. Dieu prononce des jugements sur les faux prophètes les plus vicieux par l'intermédiaire de Jérémie. Il a déjà expliqué en long, en large et en travers aux Israélites pourquoi ils seront conquis et déportés par les Babyloniens. L'Éternel condamne toujours toute forme de péché, quelle que soit l'époque où il est commis. On aimerait croire que le Dieu du Nouveau Testament est différent de celui de l'Ancien, mais c'est le même. Il n'a pas changé d'un iota, il n'a pas vieilli et n'a rien appris de nouveau. Il est le Dieu éternel qui fait sentir sa présence dans l'histoire humaine par ses interventions qu'on remarque surtout dans la nation d'Israël. Mais il nous parle aussi par la nature et plus précisément par le moyen des textes sacrés. L'apôtre Pierre écrit « Nous avons la parole des prophètes sur laquelle nous pouvons nous appuyer fermement ». Et vous faites bien de lui accorder votre attention, car elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer vos cœurs. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est le fruit d'une initiative personnelle. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Fin de citation. Ce passage mentionne l'origine de la parole des prophètes. Ésaïe, Jérémie et tous les autres sont les prophètes qui ont parlé de la part de Dieu. Pierre dit « Sachez avant tout ». Il faut savoir que les Écritures ne proviennent pas de l'homme, mais de Dieu. En effet, si c'est une personne de génie ou un imposteur qui a écrit ces textes, ils peuvent à la rigueur avoir une certaine valeur littéraire ou philosophique, mais c'est tout. Les prophètes qui ont annoncé la parole de l'Éternel et qui l'ont couchée sur du parchemin ne nous ont pas fait part de leurs observations brillantes. Ils ont simplement rapporté fidèlement ce que Dieu leur a dit. Quand on étudie sérieusement les textes sacrés, il est nécessaire de mettre de côté sa façon de penser, ses opinions personnelles et ses préférences. Il faut tout délaisser afin de s'ouvrir à la parole de Dieu. C'est ce que n'ont pas fait les faux prophètes, les prêtres et le pouvoir politique de Juda, mais nous sommes tout aussi coupables qu'eux. En effet, on possède tous notre propre manière de voir les choses qu'on croit la bonne, et chacun d'entre nous se balade avec sa grande banderole de protestation et sa pancarte de revendication. On croit avoir tout compris, alors qu'en réalité, on sait très peu de choses. Dieu seul possède la connaissance universelle complète. Il a toutes les informations nécessaires. Il voit derrière les murs et dans les cœurs, et rien ne lui échappe. À chaque instant, il connaît la masse exacte du plancton végétal qui se trouve en suspension dans toutes les mers du globe, ainsi que le nombre précis de protozoaires qui flottent. Le plus insignifiant benthos au fond de l'océan existe dans les ténèbres les plus complètes, mais il vit grâce à la puissance de son Créateur. Il est donc insensé que certains puissent se permettre de juger Dieu. Le petit homme minable dit « Seigneur, si tu existes, et je n'en suis pas sûr, je suis difficile à convaincre de ta présence parce que j'ai une capacité intellectuelle énorme qui me dit que tu n'existes peut-être pas. Mais si tu es quelque part là-haut, je veux te dire que tu as tort. » Quelle arrogance! Au printemps, nous avons toujours des fourmis qui nous envahissent. Si l'une d'entre elles venait s'asseoir dans mon fauteuil pour me dire en face « Écoute, je n'aime pas la façon dont tu as construit cette maison, ni ton jardin, ni ton choix d'arbustes, ni ce que tu manges. Savez-vous ce que je ferais à cette fourmi? Nonobstant le fait qu'elle me rapporterait beaucoup d'argent dans un cirque ou à la télé, eh bien d'un coup de chiquenaude, je l'enverrais balader et je lui ferais sentir la semelle de ma pantoufle. Heureusement pour nous, Dieu est miséricordieux et il nous donne sans cesse une seconde chance. Nous arrivons au chapitre 30 qui, avec les trois suivants, forment un tout qui représente le point culminant de la prophétie de Jérémie. C'est à l'heure la plus sombre de l'histoire d'Israël que l'horizon le plus lumineux apparaît au regard prophétique. Pour Juda, l'espérance d'un avenir glorieux contrebalance les humiliations et les angoisses du présent. La vision de l'avenir messianique que nous avons rencontrée ici et là au milieu de reproches et de menaces se trouve réunie et développée sous sa forme la plus complète dans les chapitres 30 à 33. On les a même appelés le chant suprême de la délivrance d'Israël. Ces quatre chapitres ont été composés dans les dernières années du règne de Sédécias et donc pendant la période la plus tragique de l'histoire du royaume de Juda. Je commence à lire le chapitre 30. Message que l'Éternel communiqua à Jérémie. Voici ce que déclare l'Éternel, Dieu d'Israël. Consigne par écrit dans un livre tout ce que je t'ai dit. Versets 1 et 2. Ces promesses, au lieu d'être prononcées en public, devaient être mises par écrit parce qu'elles se rapportaient à une époque encore lointaine et devaient servir à l'édification et à la consolation des générations futures. Je continue. Car voici le temps vient, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple Israël et Juda. C'est l'Éternel qui le déclare. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leurs ancêtres et ils le posséderont. Verset 3. Je ramènerai les captifs résume en quelques mots les promesses formulées dans les chapitres 30 à 33. Cette prophétie aura un accomplissement à moyen et à long terme. la restauration de la nation d'Israël par l'Éternel, qui la fera revenir sur son territoire, va au-delà du retour temporaire de Babylone à l'époque d'Esdras et de Néhémie. Jérémie prophétise également le rassemblement des Juifs dans leur pays d'origine à la fin des temps. Je continue en compressant. Voici ce que l'Éternel a dit au sujet d'Israël et de Juda. Nous avons entendu des cris d'effroi. C'est l'épouvante et non la paix. Malheur, quel jour terrible! Il n'y en a pas d'autre semblable à celui-là. C'est un temps de détresse pour les descendants de Jacob, mais ils en seront libérés. Versets 5 et 7. Ce temps de détresse sans précédent pour Israël correspond à la première partie du jour de l'Éternel et précédera immédiatement le retour du Christ. Avant d'annoncer la délivrance, Jérémie rappelle qu'elle sera précédée d'un jugement terrible car le peuple passera par la nuit de la grande tribulation avant de voir la lumière d'un jour nouveau. Je continue. Voici ce que déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. En ce temps-là, je briserai le joug pesant sur leurs épaules, j'arracherai leurs liens et ils ne seront plus esclaves d'étrangers. Ils seront serviteurs de l'Éternel, leur Dieu, et de David, leur roi, que je leur donnerai. Versets 8 à 9. Ce roi est le Messie Jésus-Christ. Il porte le nom de David comme titre dynastique, un peu comme les empereurs romains, successeurs de Jules César, portaient celui de César. Je continue. « Et toi, Jacob, mon serviteur, sois donc sans crainte, déclare l'Éternel. Non, n'aie pas peur, ô Israël. Oui, car je vais te délivrer de la terre lointaine, toi et tes descendants du pays de l'exil, car Jacob reviendra, il jouira de la tranquillité et d'une vie paisible. Personne ne l'inquiétera, car je suis avec toi, l'Éternel le déclare, et je te sauverai. Je ferai table rase de toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais je ne ferai pas table rase de toi. Cependant, je te châtirai selon ce qui est juste. Je ne te laisserai certainement pas impuni. » Versets 10 et 11. L'Éternel détruira les nations, mais se borne à châtier Israël qui, en tant que peuple, subsistera jusqu'à l'avènement du Messie. Juste avant son retour, tous les descendants d'Abraham qui auront survécu à la grande tribulation se retrouveront dans leur pays pour entrer dans le millénium. Je continue plus loin. « Tous tes amants, Jérusalem, t'ont oublié, ils ne se soucient pas de toi, car je t'ai accablé de coups comme ferait un ennemi, je t'ai cruellement châtié, car ton crime est énorme et tes fautes nombreuses. Pourquoi te plains-tu donc de ta blessure, de ce que ta douleur soit si aiguë? Je te l'ai infligé pour tes crimes énormes et tes fautes nombreuses. » Versets 14 et 15. Tous les anciens alliés de Juda l'ont lâché. Et les Israélites subissent le châtiment divin aux mains des nations païennes, à commencer par Babylone. Mais il y en aura beaucoup d'autres, et à la fin des temps, le monde entier persécutera les Juifs. Cependant, rappelle l'Éternel, le peuple de Dieu n'a aucune raison de se plaindre, parce qu'il est responsable de ce qui lui arrive. Je continue plus loin. Voici ce que déclare l'Éternel. « Moi, je vais restaurer les habitations de Jacob. J'aurai pitié de toutes ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses décombres. Le palais sera restauré sur son emplacement. Du milieu d'eux s'élèveront des accents de reconnaissance, le bruit de gens en fête. Je les multiplierai. Leur nombre ne décroîtra plus. Je les honorerai. Ils ne seront plus méprisés. » Versets 18 et 19. Ces promesses, de grande portée, se réaliseront à la fin des temps pendant le règne du Christ, le nouveau David, dans son royaume de 1000 ans. Je continue plus loin. Leur chef sera l'un d'eux, leur souverain sortira de leur rang. Je le ferai venir et il s'approchera de moi. Autrement, qui aurait l'audace de s'approcher de moi? Demande l'Éternel. Vous serez mon peuple. « Et moi, je serai votre Dieu. » Versets 21 et 22. Israël retrouvera son indépendance politique et son dirigeant. Outre ses fonctions de chef d'État, assumera également une fonction sacerdotale. Il s'agit bien entendu du Messie. Je finis le chapitre 30. Voici que la tempête de l'Éternel se lève. Sa fureur se déchaîne, l'orage tourbillonne. Il s'abat sur la tête de ceux qui font le mal. La colère de l'Éternel ne se calmera pas avant qu'il ait agi et qu'il ait accompli les desseins de son cœur. Dans les jours à venir, vous vous en rendrez compte. Versets 23 et 24. Ce refrain menaçant est destiné à Juda dans son présent. Il a pour but de prévenir toute illusion en rappelant que la délivrance sera précédée d'un triage purificateur et que le châtiment en la personne de Nabuchodonosor est imminent. Comme je l'ai souvent dit, personne n'échappe au jugement de Dieu, à moins de chercher refuge et pardon en Jésus-Christ.